Dans l'association CAP, Philippe Besson, il y a à peu près une centaine de collaborateurs, puisque cette association travaille dans tout l'ensemble du pays. Il y a, semble-t-il, 50% de ces collaborateurs qui sont des collaboratrices. Est-ce que ces femmes jouent effectivement un rôle important dans l'association ?
Oui, incontestablement, elles jouent un rôle important. Alors non seulement il y a 50% de femmes, mais il y a des femmes de toutes les origines ethniques. Il y a une surreprésentation des Chinoises et des Indiennes, mais il y a aussi des Malaises, et ça, ça ne va pas de soi. Maintenant, leur rôle, il est considérable. Il y a beaucoup d'animatrices. La responsable du service légal est une Indienne, une femme. Et donc, on peut dire qu'elle joue un rôle important parce que ce sont aussi des interlocutrices privilégiées très souvent dans les communautés. Hein. Donc, ce sont des femmes qui s'adressent à des femmes.
Mais est-ce qu'elles sont aux reines du pouvoir, si je puis dire, dans le sens que, bon, c'est une appellation qui fait souvent tiquer les gens, mais en l'occurrence, quand on parle du rôle que peuvent jouer les femmes, il est souvent important de distinguer si effectivement elles ont un pouvoir décisionnel ou non. Est-ce qu'elles servent simplement de petites mains dans l'association ou est-ce qu'en fait elles sont à des endroits où elles peuvent proposer, par exemple, une forme de développement, des actions ? Est-ce qu'elles peuvent décider d'entreprendre telle ou telle chose ?
Oui, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, la personne qui est à la tête de CAP, le président, c'est un homme, c'est un musulman. C'est quelqu'un qui se présente d'une certaine façon sous un angle assez patriarcal, mais qui a à cœur la promotion de la femme. D'autre part, je dirais que Si la politique est encore à l'heure actuelle largement faite par les femmes, il faut quand même bien voir que la responsable du service légal est une femme, ça c'est une première chose. D'autre part, les animatrices qui vont sur le terrain, elles ont carte blanche. Donc on discute de ce qu'elles font, de ce qu'elles vont faire, de où on veut aller avec la communauté, enfin ce qu'on peut lui proposer. Mais bon, moi j'ai accompagné donc une animatrice qui faisait ce travail et je crois qu'il faut bien dire que quand elle arrive dans la communauté, elle est seule maître à bord, en tout cas elle est la responsable de CAP, elle est l'interlocutrice des gens sur place. Et ça implique quand même un pouvoir important. En tout cas, ce n'est pas du tout une structure où il y aurait systématiquement le monsieur qui va visiter la communauté et puis l'assistante, la script qui a le droit de prendre les procès-verbaux derrière. Ça ne se passe vraiment pas comme ça.
Donc, en tant qu'association de consommateurs, on défend des préoccupations de consommatrices aussi. Donc, c'est une part importante des préoccupations de l'association. C'est les femmes, parce que j'imagine que ces femmes animatrices doivent se sentir plus concernées par ce qui se passe au niveau des femmes.
Absolument, oui. Bon, il faut bien voir que la revendication de l'identité culturelle peut peut-être amener de notre part, je pense en particulier de la part de femmes occidentales, parfois une certaine réticence face à certaines prises de position. Ce sont des femmes qui écrivent des articles qui expliquent que les femmes ne doivent pas s'habiller d'une certaine façon, qu'il ne faut pas regarder Dallas à la télévision, et des choses comme ça. Donc, ce qu'on pourrait, nous, estimer être une espèce de mise dans les barrières, hein, donc de paternalisme, ou est-ce qu'il faudrait dire ça, est-ce qu'il faudrait parler de maternalisme, je sais pas. Elle considère que c'est tout à fait normal. Donc, j'étais parfois un peu frappé des prises de position des femmes à propos des femmes. Disons ça comme ça. Mmh.
Très concrètement, par exemple, vous avez un ou deux exemples à nous donner ?
Oui, alors je me rappelle d'un article dont j'ai discuté un peu avec elle. Un article qui était donc paru dans Lotus & Consumer. Et il y avait donc des extraits de films qui passait à la télé. Il faut dire les choses comme elles sont. Le programme de télé, c'est quand même beaucoup d'émissions américaines, des choses comme ça. En soi, c'est pas très bon et ils ont raison de le critiquer. Mais enfin, bon, il y avait des photos où on voyait des dames en costume de bain. Alors là je conçois et je comprends tout à fait, j'approuve qu'on critique le message transmis. Mais il y avait aussi une pauvre adolescente qui était assise sur un piano. Et alors, on ne s'assied pas sur un piano. En tout cas, pas en Malaisie, ça ne se fait pas. Et c'était vertement critiqué. C'était considéré comme une attitude inconvenante. Or là, je trouvais qu'elles y allaient un peu fort, mais on m'expliquait que non, pas du tout. Enfin, c'était tout à fait normal de critiquer ça, parce que quand même, on ne s'asseyait pas sur les pianos et qu'il fallait bien le dire. Alors, des fois, bon, on peut penser que ça va un peu loin, mais je crois que c'est bien compréhensible dans la mesure où, pour essayer de se démarquer de cette pression quand même très forte, de la production étrangère, donc surtout à la télévision, eh bien on a peut-être tendance à aller un peu dans l'extrême inverse.
Quand vous dites « elle critiquait la jeune fille assise sur le piano », c'est qui « elle » ?
Alors, dans les comités de rédaction, il y a des femmes aussi. Et puis là, en l'occurrence, j'en parlais de retour d'une visite sur le terrain, donc dans un village, avec justement une animatrice qui elle était indienne, et une autre collaboratrice de CAP qui elle est malaise et qui avait fait ses études de biologie au Canada, donc qui connaissait bien l'Amérique du Nord, et qui était moins catégorique que sa collègue, mais qui trouvait qu'effectivement c'était bien de relever, disons, le sens de la photo. Alors moi, il me paraissait moins évident, disons.
Comme vous avez dit que vous êtes, entre autres, allé dans certains villages accompagné d'une des animatrices de CAP, comment en sont-elles reçues, en fait ? Est-ce que les femmes dans les villages, ou les hommes, puisque l'association réunit aussi bien les problèmes des uns et des autres, mais parlons des femmes, puisque c'est ce qui nous intéresse prioritairement, est-ce que c'est les femmes des villages qui vont soumettre des questions qui les préoccupent aux animatrices de CAP, ou c'est les animatrices de CAP qui viennent avec des choses à discuter, une prise de conscience à faire à propos de tel ou tel problème concernant le pays ?
Oui, disons, ça se passe dans les deux sens. Hein. Bon, quand il se passe quelque chose, quand il y a un conflit, CAP vient, s'introduit, essaye de répondre aux préoccupations des gens et de canaliser ces préoccupations et la réaction qui suit ces préoccupations.
Est-ce que par hasard vous avez un exemple concret en tête où on pourrait voir le mécanisme de lien entre les gens dans le pays et puis l'association qui quand même réunit des gens déjà d'un certain une formation intellectuelle qui sont disons plus conscients que les gens qu'ils contactent dans les villages.
Oui, alors je pense que on pourrait parler un peu de ce village que j'ai visité, donc il y a le village de Bukit Merah. Qui a un problème, c'est que donc sur le territoire du village, il y a une usine de retraitement des déchets qui sont produits par l'exploitation, l'extraction de l'étain. Et de ces déchets, on peut extraire ce qu'on appelle en anglais le rare earth, donc la terre rare, si on veut, qui est un composite de produits faiblement radioactifs, mais radioactifs quand même, qu'on utilise donc pour faire des composantes céramiques dans l'électronique. Donc on cuit ça, c'est très résistant, et on en fait des composants qui sont utilisés dans les lasers, dans les téléviseurs, des choses comme ça.
Exploités en Malaisie par les Japonais, semble-t-il, essentiellement.
Voilà, c'est ça. Alors, ça pose, soit dit en passant, le problème de l'exportation des technologies à haut risque parce que ça coûte trop cher de faire le traitement des déchets au Japon. Alors, on va en Malaisie et puis on traite
pas les déchets. Ou on les laisse à ciel ouvert, voilà.
Et ça, c'est un problème très grave qui se retrouve dans pas mal de pays du tiers-monde. Et comme ces déchets, justement, sont déposés à ciel ouvert, il y a eu donc pollution de la nappe phréatique. Et il y a eu aussi pollution directe par les poussières. Ce qui fait qu'il y a eu de graves problèmes dans la population, en particulier chez les femmes et chez les enfants. Et donc, les gens se sentant malades ont alerté CAP, ont demandé des explications. Alors, la première chose qu'il a fallu voir, c'était ce qu'était la radioactivité, ce que les gens risquaient vraiment. Et bon, CAP est arrivé alors qu'il y avait déjà une partie de la population qui avait essayé de faire quelque chose là contre, donc qui avait essayé de stopper l'exploitation de l'usine. Alors, comment CAP fonctionne-t-il? Alors, CAP propose donc ses services juridiques, donc concrètement les services d'un avocat, en l'occurrence d'une avocate. CAP propose aussi les services d'un médecin qui fait des analyses, qui essaye de suivre les cas les plus pénibles. Et puis, donc régulièrement, en tout cas une fois toutes les deux semaines, mais très souvent aussi une fois toutes les semaines, il y a donc cette animatrice de CAP qui vient. Et là, en fait, elle fait le tour des familles particulièrement touchées. Donc il y a des enfants qui sont nés avec de graves problèmes, tumeurs au cerveau, tumeurs aux reins également, hydrocéphalie, etc., etc. Donc ces familles sont suivies. Et puis l'animatrice est aussi là pour faire des suggestions. Alors, par exemple, quand j'y étais, là, il était question de créer un fonds de solidarité. Et c'est clair qu'alors l'animatrice qui connaît les meilleurs mécanismes pour faire fonctionner ces choses-là, propose donc un certain nombre de choses, mais c'est la communauté qui en discute, et puis en l'occurrence, c'est elle qui a fixé donc le taux de cotisation de chaque personne qui serait membre de ce fonds de solidarité.
J'ai sous les yeux un des exemplaires de l'Utuzan Kosum dont vous nous avez parlé tout à l'heure, donc ce journal de CAP, et l'exemplaire qui justement parle dans un de ses articles du village de Bukit Merah et qui titre la leucémie, la quantité de personnes atteintes par la leucémie à Bukit Merah atteint 40 fois un niveau supérieur, 40 fois supérieur à la moyenne nationale. Alors j'ai traduit en quelques mots le début de l'article. L'article fait écho d'une enquête faite par une professeure qui s'appelle Rosalie Bertel, qui est experte canadienne en radiation, et qui dit que justement, elle relate une étude qui s'est faite dans le pays, qui a duré 3 ans, qui a été faite par un professeur de l'université, et qui a démontré qu'il semblerait qu'il n'y ait que 34 cas de leucémie pour 1 million d'enfants qui soient recensés en une année pour des enfants de moins de 13 ans. Or, cette statistique signifierait que, par rapport à la région de Bukit Merah, eh bien, il n'y aurait qu'un cas tous les 20 ans de leucémie. Or, on sait, et l'article le précise, la recherche de cette professeure signifie que, en l'occurrence, il y a déjà eu 2 cas de leucémie en 1989 et on en avait déjà recensé 3 chez des jeunes de plus jeunes de 20 ans dans une période de 6 mois entre 88 et 89. Et que, bien sûr, elle affirme très clairement que l'agent numéro 1 suspect dans les cas de leucémie infantile comme ceux cités, c'est bien sûr les radiations. Alors, Philippe, je voulais demander un article comme celui-là, qui aborde des choses importantes dans le journal. Le jour où est-ce que ce journal arrive dans les villages, par exemple, à Bukit Merah, et est-ce que les gens vont lire cet article à Bukit Merah? Il y a quand même beaucoup de gens qui, j'imagine, ne savent pas encore lire en Malaisie.
Oui, c'est exact. Alors, ça fonctionne à deux niveaux. D'abord, il y a des gens qui reçoivent le journal et qui le lisent, parce que dans presque tous les villages, il y a des gens qui savent lire. Et puis, Bukit Merah est quand même très proche d'une ville relativement importante. C'est aussi un village qui est relativement industrialisé. Donc, il y a beaucoup de gens qui savent lire. En plus, c'est des Chinois. Les Chinois sont beaucoup plus lettrés, traditionnellement, que les Malais. Bon, donc il y a ceux qui reçoivent le journal et qui le lisent donc directement, immédiatement. Mais il y a aussi en fait un effet indirect, c'est-à-dire que il y a des gens qui se chargent de lire et de commenter l'article en petits groupes, et ça se fait régulièrement. Donc les gens à Bukit Merah se rencontrent et commentent le dernier Utuzan Kosum.
Donc finalement, même si les gens ne savent pas forcément lire et lire. Il y a d'autres qui se chargent de leur transmettre ce qui se passe dans le journal. Donc le journal est un outil important et qui a un impact important. C'est un moyen très utile pour CAP, pour conscientiser, pour informer les gens avec lesquels qu'elle voudrait toucher.
Oui, tout à fait. Donc justement parce que il y a pas que le lecteur, il y a ce que le lecteur fait du contenu, c'est-à-dire qu'il va le raconter ailleurs. Et puis, il y a aussi la force de l'écrit, c'est-à-dire que le fait que ce soit dans un journal, eh bien, on connaît l'effet chez nous. En Malaisie, c'est pas différent, sauf que c'est encore beaucoup plus fort. C'est écrit, donc c'est important. Et ça joue aussi un rôle psychologique.
Semble-t-il que ce journal soit un des seuls à paraître à peu près librement en Malaisie, puisque la presse est sous contrôle par ailleurs. C'est une chose importante qu'a réussi à imposer CAP.
Oui, c'est une des subtilités de la Malaisie, c'est qu'il y a bien des quotidiens, il y en a plusieurs, il y a des magazines, mais qui sont contrôlés même pas par la censure, parce que la censure est plus subtile. Donc le capital de ces journaux est en général entre les mains du gouvernement, et ça veut dire que ces journaux-là ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Alors CAP est totalement indépendante, ça lui facilite beaucoup les choses, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut raconter absolument tout ce qu'elle voudrait raconter. Mais c'est toujours un peu un exercice de corps de raide. Jusqu'ici, le journal n'a jamais été saisi, mais chaque fois qu'il s'agit de renouveler la licence d'édition, c'est un peu tangent et puis ça donne lieu à des négociations assez ardues. Le grand avantage de CAP, c'est que comme c'est une organisation qui est connue internationalement, le gouvernement ne peut pas se payer le luxe de simplement fermer le journal. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a des espèces de modus vivendi qui se mettent en place. Et c'est pour ça qu'ils peuvent continuer à publier.
Mais si je passe en revue les titres de première page, parce que j'ai 4 ou 5 exemplaires du Autusan Consum, qui se situe entre octobre et janvier 90. Donc, et si je regarde que la première page avec les titres, c'est vrai qu'ils n'y vont pas quand même de main morte. Visiblement, ils désignent quand même un certain nombre de choses. Là, je vois un grand titre. Le poison est de retour dans notre nourriture. CAP teste des nouilles et des petites balles de poisson dans lesquelles on aurait mis des dirty tricks en anglais, donc des sales petites choses, je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais de constater que la contamination est bien plus grave à Kuala Lumpur. Je regarde un autre titre, perdez du poids naturellement. Cela, je pense, cet article doit viser particulièrement les femmes, d'autant plus que dans un autre exemplaire, il y a une sorte de caricature où on voit, je feuillette là, où on voit que les promesses faites aux femmes grasses, titre le Autusan Consum. Il y a des centres pour maigrir qui offrent des pertes de poids à des prix très élevés. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça marche? Eh bien, le Autusan Consum vous propose une enquête sur la question. Et le dessin est assez éloquent où on voit une dame avant sa cure d'amaigrissement, souriante, un peu rondelette, il est vrai, mais souriante. Et après, toute flasque et pleine de bourrelets, les cheveux en mauvais état et les joues qui pendouillent. Donc on peut s'imaginer que les problèmes de cure d'amaigrissement doivent poser des graves problèmes. On voit aussi un article qui s'adresse aux enfants. Il se trouve qu'il semblerait qu'il y ait des conseillers, des psychiatres qui parlent beaucoup de la pression qui est faite sur les adolescents pour la consommation. Alors le Autusan Consum dénonce cette pression faite sur les adolescents. Autre titre, le péché attaque nos villes. Et il semblerait qu'effectivement, il y ait des rôles que l'on fasse jouer aux femmes dans certaines villes qui seraient dénoncées par le Autusan Consum. Je feuillette toujours, qu'est-ce que je vois d'autre? Comment avoir une meilleure vie? Apprendre les 7 lois d'or d'une meilleure vie. Là, un autre titre qui met en évidence l'allaitement pour les mères. Ici, qui dénonce le fait que dans le lait en poudre, on a découvert de l'aluminium. Est-ce que vraiment c'est une chose très bonne à consommer pour les enfants ou est-ce que ce métal serait bien sûr toxique et est-ce qu'on le trouve dans tous les laits en poudre? Voilà encore un article proposé par l'Autusan Consum. Et qu'est-ce que... Ah oui, voilà encore un autre article qui concerne les femmes. Eh bien, il semblerait que se marier, pour les hommes et pour les femmes, est une chose extrêmement coûteuse. Et beaucoup de couples doivent attendre des années pour pouvoir se marier. Alors, allez regarder à la page 17 du Autozone Consumer de octobre 89 pour tout savoir quels sont les aléas du mariage en Malaisie. Et puis, sur ce dernier exemplaire que j'ai sous les yeux... Il y a de nombreux articles consacrés à la pollution d'une usine qui a dégradé la vie de milliers de gens à Kedah. Je ne sais pas où se trouve Kedah. Il y a un autre article qui titre « Aider les peinants ». Nous avons entendu parler des peinants jusqu'en Europe, puisque, entre autres, il y a un valeureux Suisse qui s'est aussi préoccupé de la situation des peinants qui sont menacés par le déboisement de la partie orientale sur l'île de Kalimantan. Alors, on demande dans cette première page d'aider les peinants à rentrer chez eux. 85 peinants sont en prison et sont malades et désespérés. Est-ce que nous pouvons les aider? Voilà un des titres encore de ce journal. Donc, on voit qu'il y a toutes sortes d'articles les plus divers les uns que les autres qui sont traités dans l'Autozone Consumer. Alors, avant de continuer, on va peut-être faire juste une petite pause et pour finir, on abordera un ou deux exemples encore qui concernent les femmes d'Action Concrète de Cap. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Besson de l'association Helvetas dans Remue Ménage, 93.8 Radio Zone. Et pour terminer ce voyage en Malaisie et surtout notre intérêt pour l'association CAP, Association de Consommateurs et Consommatrices, nous allons parler d'une ou deux actions qu'entreprend CAP, particulièrement en direction des femmes, des jeunes filles plus particulièrement, Philippe. Parce qu'en l'occurrence, je crois qu'il s'agit d'un programme d'éducation dans les écoles à destination des jeunes filles.
Oui, c'est ça. Donc,
CAP, vous avez assisté à un de ces cours d'ailleurs.
Voilà, exactement. Donc, CAP donne aussi des cours de formation aux adolescents par le biais des enseignants. Donc, CAP organise des journées comme ça à Penang. Donc, les gens viennent et vivent en fait deux nuits ensemble. Donc, alors, il y a déjà une atmosphère très communautaire. Et ces programmes sont axés beaucoup sur les femmes. Et en général, la responsable du service légal, donc cette avocate qui s'appelle Mina, donc qui est une brahmane indienne, vient donner son cours qu'on pourrait appeler de résistance culturelle et qui s'adresse tout particulièrement aux jeunes femmes. Et j'ai assisté à ça, donc ça se passe en Bahasa Malaysia, donc qui est la langue officielle. Alors c'est intéressant de voir que souvent les classes sont mixtes, et mixtes au sens de garçons et filles, mais aussi mixtes au sens donc ethnique. Donc ça donne des réactions et des attitudes parfois assez diverses. Et alors, tout tourne autour de l'idée, c'est une approche assez maïotique, donc on essaie de pousser les gens à s'interroger sur ce qu'ils font, ce qu'ils voient, et développer eux-mêmes leur propre critique. Et alors, en fait, on interpelle beaucoup les jeunes filles sur ce qu'elles veulent faire lorsqu'elles seront adultes, comment elles conçoivent la famille, comment elles conçoivent l'alimentation, la puériculture, parce que, en fait, très tôt, les jeunes filles ont à s'occuper d'enfants, et puis c'est très important d'avoir des enfants en Malaisie. On parle de santé, on parle de la nécessité de l'éducation, de toutes ces choses-là, en fait. Et puis, on pousse les jeunes filles à s'exprimer, à échanger des vues là-dessus. Et des fois, le débat peut devenir assez vif. Et puis alors, évidemment, les garçons, eux, se font très souvent interpeller. Des fois, ils se sentent un peu remis en question aussi. Donc, ça donne très souvent des journées très, très vivantes. Et en général, il semble que l'impact sur les classes soit durable. C'est-à-dire que, donc, après que ces classes aient vécu ce type d'expérience, elles continuent ce travail de réflexion. Et souvent, elles créent, par exemple, un de ces clubs de consommateurs que CAP promeut à travers toute la Malaisie. Et alors, la réflexion continue. On lance aussi peut-être des petites actions. Et puis, le débat peut être porté jusque dans les familles. Et d'ailleurs, très souvent, il arrive que les parents se plaignent un peu, ou même des fois beaucoup, parce que alors, c'est évidemment parfois une critique un peu acerbe. Alors, ça provoque des remous jusque dans les foyers.
Vous voulez dire qu'il se crée une association de consommateurs dans l'école ?
Ben, c'est-à-dire que donc les élèves créent leur club de consommateurs et vont par exemple essayer d'examiner ce qu'il y a dans les hamburgers ou bien dans le poulet frit du Kentucky Fried. Moi, j'étais à Penang, en face de mon hôtel, il y avait un Kentucky Fried Chicken en face, dans une superbe maison coloniale, et c'est très prisé. Alors le paradoxe, c'est que c'est très cher, hein. Alors, on fait travailler les jeunes là-dessus. On leur dit, bon, écoutez, vous allez chez l'Indien du coin, vous nous dites combien ça coûte, et puis si vous trouvez bon, pas bon, ce qu'il y a dedans, d'un point de vue diététique. Et puis après, vous allez voir ce qui se passe au Kentucky Fried. Et puis, tout d'un coup, ils se disent, ah, mais en fait, oui, pourquoi, comment? Et puis, il faut bien voir qu'il y a une tendance à essayer d'entrer dans les écoles comme marché. Hein, parce qu'évidemment, les élèves sont des gros consommateurs de friandises, de plats tout près, y compris dans les cantines d'ailleurs. Il y avait des cantines qui avaient des contrats avec des boîtes de fast-food, on peut quasiment dire. Et alors ça a été aussi remis en question. Donc, et tout ça se passe dans ces petits groupes un peu informels, mais qui sont cadrés par les enseignants et par CAP.
Mais vous parliez tout à l'heure des sujets abordés qui seraient censés être typiquement les préoccupations des jeunes filles. Ça m'a l'air terriblement conventionnel, dans le sens qu'on ne discute que le rôle qu'ont habituellement les femmes dans n'importe quelle famille du monde et n'importe quelle société du monde. Donc en fait, l'avocate en question qui donne ses cours, elle n'essaye pas de provoquer un petit peu une remise en cause de ces rôles traditionnels ?
Oui, disons... dans un sens, la remarque est parfaitement justifiée. C'est-à-dire que c'est vrai que le rôle prôné par CAP est dans un certain sens traditionnel. C'est vrai qu'on s'attend à ce que les jeunes filles finissent par se marier, avoir des enfants, etc. etc. Mais, CAP dit que, ma foi, de toute façon, c'est la réalité. Et puis que pourquoi pas, il n'y a pas de raison, c'est un rôle essentiel et très gratifiant de la femme. Bon, on peut discuter, ce n'est pas forcément l'avis qu'on peut avoir ici. Enfin, pourquoi pas. D'autre part, CAP a quand même un message critique et pousse les jeunes filles à concevoir ce rôle d'une façon plus équilibrée. C'est-à-dire que Cap amène quand même les jeunes femmes à essayer de voir les relations dans le couple, dans la famille, par rapport aux enfants, d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'elles ont des droits, que ce n'est pas simplement le mari qui doit décider de où elles vont, ce qu'elles font, de comment les enfants seront éduqués, ce genre de choses. Donc là, on peut quand même dire qu'il y a une influence claire et dans un certain sens féministe. Mais c'est vrai que comme on ne veut pas suivre le modèle occidental, par exemple, on ne dit absolument pas que c'est tout à fait légitime que des femmes restent célibataires. Ça, c'est, effectivement, il y a une réticence. Et puis c'est vrai que notre avocate, Mina, a le rond rouge de la femme mariée, donc revendique son statut de femme mariée, le veut, se sent bien là-dedans. Et elle transmet effectivement ce message. Alors, je ne sais pas comment l'analyser. Je crois que dans un sens, après tout, c'est l'affaire des Malaisiennes, disons, pour enlever toutes les communautés ethniques. Puis d'un autre côté, peut-être que même Cap a encore un certain petit bout de chemin à faire.
Est-ce que vous, dans votre action d'Helvetas, il vous est arrivé de susciter ce genre de débat parmi les collaboratrices en leur faisant constater, quand vous l'avez accompagnée dans cette école, que justement, Cap avait peut-être un rôle immense à jouer dans la remise en cause d'un certain type de développement, beaucoup de préoccupations par rapport à l'écologie, mais par contre, retransmettait une société très conforme, entre autres, par rapport au rôle de la femme. Est-ce que vous oseriez le faire? Vous êtes en situation de pouvoir le faire?
Oui, disons, on en a discuté. On en a discuté de façon informelle. Alors, on m'a expliqué ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de raison de suivre le modèle occidental. La Malaisie, c'était différent. Maintenant, il faut bien voir que c'est toujours très, très difficile de voir ce qui est un apport à la discussion, une critique qui est bien prise de façon constructive. Et puis ce qui peut déjà être perçu comme en fait une espèce de tentative de prise d'influence ou bien la reproduction d'un schéma impérialiste culturel occidental. Et par exemple, comme je m'étais quand même un peu renseigné avant, je ne l'aurais de toute façon pas fait, mais une des toutes premières choses qu'on m'a dites, donc c'est une Indienne qui m'a dit ça, on va vous envoyer une des responsables du service des analyses chimiques, c'est une musulmane, une malaise, surtout ne lui donnez pas la main. Alors, face à ça, on ne peut pas faire autre chose que de le respecter, hein, et même si on trouve que dans un sens, c'est dommage.
Est-ce que ce serait plus facile si c'était une femme qui s'était occupée du projet pour Helvetas et non pas vous?
Alors apparemment pas, non. C'est différent, mais ce n'est pas forcément plus facile. C'est clair qu'être un homme face à une femme musulmane, c'est encore un peu plus délicat. Mais c'est évident aussi que il y a de toute façon une certaine distance qu'on doit sauvegarder. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses dont on ne parle pas, sauf à se connaître vraiment très bien. Il y a une façon de se comporter, dedans, dehors. Des fois, c'est un peu compliqué même. Hein. Dans un foyer musulman, il faut absolument enlever ses chaussures. Ailleurs, on n'enlève pas ses chaussures, ce ne sera pas forcément bien vu. Ça fait peut-être un peu les charmes de la Malaisie, c'est qu'il faut toujours jongler avec les habitudes culturelles.
Je vous remercie Philippe Besson pour toute cette discussion autour de la Malaisie et de Cap. Nous n'avons pas encore décidé quelle sera notre prochaine émission. Moi, j'aimerais bien que ce soit sur les Philippines et les femmes qui s'occupent de la pêche. Je ne sais pas si ce sera possible.
Oui, donc la possibilité, on pourrait parler des Philippines, on pourrait éventuellement parler aussi du Paraguay où il se passe aussi des choses intéressantes.
Alors, dans un mois, à la prochaine fois, sur Remue Ménage avec Helvetas pour parler d'un autre projet où les femmes sont actives. C'est Fadela, une jeune femme qui fait du raï, comme vous aurez sûrement reconnu ce rythme que l'on a entendu jouer par des hommes. Mais il y a aussi des femmes qui font du raï en Algérie. J'avais envie de vous lire des lettres d'auditrices et d'auditeurs que nous avons reçues. Et oui, ça nous arrive, entre autres, dans le cadre de notre campagne à l'heure actuelle que nous avons lancée. Vous avez peut-être reçu une petite lettre de notre part vous demandant de renouveler votre fidélité et votre appui à Radio Zone Ondes Femmes en achetant une carte d'auditrice ou d'auditeur au prix de 30 francs suisses ou 100 francs français. Il n'est pas trop tard de le faire si vous ne l'avez pas encore fait et si vous n'avez pas reçu de petites lettres de notre part. Eh bien, et si vous nous écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez tout simplement nous téléphoner au 50 40 51 41. Je répète, 50 40 51 41, 023 si vous appelez depuis Genève, 0033 depuis le reste de la Suisse romande. Eh bien, il y a des auditrices qui nous ont écrit en même temps qu'elles renouvelaient leur carte. Par exemple, au mois de janvier, nous avons reçu une lettre de, comment s'appelle-t-elle, Brigitte, qui, Brigitte, ah c'est deux Brigitte, c'est étonnant, vous allez voir comprendre pourquoi, qui nous écrit ainsi, chères animatrices de Ondes Femmes, j'ai bien reçu votre carte d'auditrice à une adresse qui n'est plus valable, voilà ma nouvelle adresse, et bravo pour vos émissions, c'est très souvent un grand plaisir d'être une de vos auditrices. Alors ça nous fait beaucoup de bien par où ça passe quand on reçoit des petites lettres de ce genre. Et puis on a reçu une autre lettre un petit peu particulière, puisque ni plus ni moins, elle nous vient de Phnom Penh. Et elle est datée du 18 février 1990. « Chère Ondes Femmes, quel bonheur de recevoir votre nouvelle carte d'auditeur. Oui, auditeur, puisque je vous propose de nous envoyer deux cartes d'auditeur, une pour moi-même et l'autre pour mon compagnon. C'est sans hésitation aucune que nous renouvelons notre soutien inconditionnel à Ondes Femmes. Nous aurions tant aimé participer de manière plus active et comme vous le suggérez dans votre petite lettre, vous téléphonez pendant une émission en direct. Or, nous avons demandé la ligne il y a maintenant 21 jours et nous ne sommes toujours pas branchés sur Genève. Vous serait-il possible de vous raccorder à Moscou, cela nous faciliterait grandement la tâche. En attendant, nous choisissons donc votre deuxième proposition, un petit mot, c'est si rigolo. Nous allons sans doute abuser, mais aurions-nous tout de même vous demander de brancher votre émetteur un tout petit peu plus fort, car même en collant notre oreille sur la radio, et nous avons bien réglé notre poste sur 93.8, nous avons quelques petits problèmes à vous entendre à Phnom Penh, mais en prenant le différé, même en prenant le différé pour compenser le décalage horaire, il n'y a rien à faire. Alors, chère Ondes Femmes, à bientôt à notre retour à Genève et la lutte continue. Vos souteneurs, j'aime bien la signature, Brigitte et Bertrand. Alors, je ne sais pas si on recevra tous les jours des lettres de Phnom Penh, mais ça vaut la peine en tout cas de vous les faire connaître. Et si vous avez aussi envie de nous envoyer un petit message en même temps que vous nous rachetez une carte d'auditeur ou d'auditrice, eh bien, n'hésitez pas avec des propositions, avec vos impressions, ça nous fait toujours très très plaisir. Maria Bethagne pour finir en douceur cette émission sur Remue-Ménage aujourd'hui.
O primeiro me chegou como quem vem do florista. Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista. Me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha. Me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha. Me encontrou tão desarmada que tocou meu coração. Mas não me negava nada e assustada eu disse não. O segundo me chegou como quem chega do bar. Trouxe um litro de aguardente tão amarga de tragar. Indagou o meu passado e cheirou minha comida. Vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida. Me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração. Mas não me entregava nada e assustada eu disse não. terceiro me chegou. Como quem chega do nada, ele não me trouxe nada, também nada perguntou. Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando sorrateiro, e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração.
Voilà, Remue Ménage, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avions entendu Philippe Besson de l'association Helvetas nous parlant de l'association des consommateurs en Malaisie. Et la semaine prochaine, je vous retrouve. Non, je m'excuse, c'est vrai, j'oubliais, je ne vous retrouve pas la semaine prochaine en direct, je suis absente. Mais je vous propose la rediffusion d'un entretien que j'avais eu avec l'association Solidarité Femmes, qu'il me semble important de retransmettre encore une fois, surtout à la veille du 8 mars. 8 mars que nous devons fêter, je vous rappelle aussi, le dimanche 4 mars à l'usine à Genève, où toutes sortes d'activités récréatives, que ce soit musique, théâtre, cinéma, vous seront proposées, puisque c'est la fête qui est proposée pour marquer cette journée internationale des femmes que nous marquerons, nous, à Genève, le dimanche 4 mars. Et je vous retrouve en direct dans 15 jours avec la compagnie de Corinne Wacker. Corinne Wacker est une ethnologue zurichoise qui va nous parler de son expérience de 3 ans au Kenya, et qu'est-ce que c'est que d'être ethnologue femme et de débarquer dans un monde qui est surtout très masculin, celui des recherches ethnologiques sur le terrain. À bientôt.